7 milliards de voisins. C'est la radio mondiale.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins, la formation des enseignants en Afrique en question avec un gros plan sur un projet de la francophonie, le projet IFADEM, un programme de formation continue et à distance des enseignants au Burundi qui fonctionne aussi dans 3 autres pays, Bénin, Madagascar, Haïti. Vous pouvez bien sûr participer à l'émission et témoigner de ce qui se passe dans votre pays concernant la formation des enseignants. Notre numéro de téléphone, c'est le 33 1 56 40 21 71. N'attendez pas trop tard pour nous appeler parce qu'en général après vous êtes très nombreux, l'émission est terminée. Amélie Niard, vous êtes partie en reportage au Burundi, vous avez justement rencontré pas mal d'enseignants dans les salles de classe.
Oui, alors tous soulignent plus ou moins les mêmes difficultés, mais moi ce que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, enfin en tout cas ce qui m'a pas mal étonnée, c'est que donc des maîtres, des instituteurs et des institutrices qui ont été formés ne sont pas au niveau et ont besoin d'une formation complémentaire. Donc ça veut dire qu'ils ont le diplôme pour enseigner, mais qu'ils n'ont pas le niveau pour effectivement assurer leurs cours en français. Explication de Clémence Vidal de la Blache, de l'Agence française de développement, et Consilim Boyiba, qui est la chef du projet IFADEM au Burundi.
Ça tient d'abord au profil d'entrée des élèves maîtres dans les lycées pédagogiques et les écoles normales, qui sont les instituts de formation des maîtres au Burundi. Malheureusement, pendant longtemps, le métier d'enseignant a mal été valorisé. Et donc, l'orientation qui se faisait au sortir du collège orientait plutôt les élèves en difficulté, ou plutôt en milieu et bas de classe, vers ces filières-là. Et donc, c'est des élèves qui avaient déjà certaines lacunes qui se retrouvaient dans ces filières pédagogiques, et donc qui étaient peut-être moins outillés paradoxalement que d'autres pour jouer ce rôle d'enseignant. Je pense que la deuxième chose, c'est lié au cursus de formation. Le programme dans les lycées pédagogiques et les écoles normales met peut-être pas suffisamment l'accent sur la remédiation linguistique, donc la mise à niveau des élèves en français. Ils ont par exemple des cours de technologie, de sciences, qui ne sont pas des cours qui seront amenés à enseigner au primaire. Et donc on voit peut-être un disconnect entre le programme des lycées pédagogiques et les compétences qu'ils doivent avoir dans leur métier d'enseignant. C'est quelque chose qui est en train de s'en changer, c'est-à-dire c'est un débouché qui est jugé relativement stable, c'est quand même un des seuls secteurs sur lequel l'État embauche, une des seules sources de recrutement de fonctionnaires aujourd'hui, et donc c'est une filière qui est en train de se valoriser, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire, que ce soit de la part du ministère et des partenaires qui l'accompagnent sur la valorisation de ce métier. Assurer les formations pour les maîtres en poste, c'est une façon de revaloriser, mais je pense qu'il y a aussi un débat, un échange à avoir sur la place de l'enseignement dans la société burundaise, effectivement.
Pourquoi cette formation supplémentaire est nécessaire?
Ce serait peut-être trop dire si je dis qu'ils n'ont pas le niveau, mais on remarque quand même qu'il y a des insuffisances. Mais ils ont le niveau parce que les instituteurs ciblés dans le cadre IFADEM, ce sont des instituteurs qui ont un diplôme soit d'instituteur adjoint, soit d'instituteur. Pour IFADEM, pour pouvoir bénéficier de la formation, il faut être un instituteur qualifié. Il faut être un instituteur titulaire.
Et alors, il manquait quelque chose dans la formation de base de ces instituteurs ?
Effectivement, on s'est rendu compte que les compétences supposées des instituteurs n'étaient pas réellement acquises au cours de la formation. Donc, c'est une façon de les aider à relever ce niveau, à acquérir ces connaissances pour pouvoir offrir une formation de qualité aux enfants dont ils ont la charge. Alors, dans le cadre IFADEM, on leur a appris à faire de l'interaction, à échanger avec les enfants pour donner aussi du goût et pour donner le temps aux enfants de s'exprimer, en quelque sorte d'utiliser la langue pour pouvoir la manier correctement. Maintenant, et aussi ils l'affirment, ils essaient de donner beaucoup plus du temps aux élèves pour s'exprimer.
Où est-ce qu'on va à la Concilie ?
Nous allons dans une école de Bujumbura Mairie, quartier Ngagala, quartier 4, dans une classe d'une institutrice qui a suivi la formation IFADEM.
Ok, très bien, c'est parti.
Très bien. Comment ? L'inconnu, c'est lui qui apprenne. Par exemple, moi, je vous apprenne à enseigner, à apprendre le français, à apprendre d'autres disciplines. L'entraîneur, c'est qui? D'après vous, l'entraîneur, est-ce que c'est le joueur qui a des talents?
Une fois que je rentrais, sans être fatiguée, je concertais les livres presque chaque jour, parce que ça demandait beaucoup de concentration. Si on lisait le livre une fois, pratiquement on ne comprenait rien. D'abord les enfants, vraiment, les enfants, ce sont des enfants qui viennent de la quatrième année, très faibles en français. S'ils ne comprennent pas la langue, ils ne comprennent pas même d'autres matières qu'ils apprennent en français. Et nous avons beaucoup, beaucoup de difficultés pour faire travailler les élèves. Ils n'osent pas parler le français. C'est une langue étrangère qu'ils ne connaissent pas. Donc, il faut alors les manier d'une façon spéciale.
C'est-à-dire ?
Des jeux de rôle. Par exemple, au marché, il y a des enfants qui font le marchandage. Il y a le client, il y a le vendeur. Et ils essaient de négocier, de discuter le prix. Avec ça, on les apprend petit à petit et on les apprend à aimer le français et à le parler. Et on les interdit de parler en kirundi. Donc, on les aide à essayer de parler la langue. Avant, ils n'avaient pas le courage de parler. Ils parlaient, mais pas tout le monde. Comme vous l'avez vu vous-même, beaucoup d'élèves lèvent la main, même s'ils disent des fautes, et ils ont le courage.
Pendant vos études pour devenir enseignante, on ne vous avait pas appris à appliquer ces méthodes-là?
On a appris les méthodes, mais vraiment pas comme les FADEM. Maintenant, les FADEM est venu au moment opportun. Parce que moi, je suis maintenant sur terrain. Je constate les problèmes des élèves. Et mes problèmes aussi.
En ce moment, les élèves apprennent le français.
On vient d'entendre Thérèse, institutrice à Bujumbura, qui a suivi donc la formation que vous mettez en place, Pierre-Jean Loiret, de l'Agence universitaire de la francophonie, cette fameuse formation continue d'enseignants. On a entendu les petits doigts qui claquent dans la classe, ça veut dire que les élèves, les enfants participent, ont envie de répondre aux questions, il y a une autre ambiance dans la salle de classe.
Oui, ça c'est une caractéristique forte d'IFADEM, c'était de construire son programme autour d'activités que le maître peut mener avec ses élèves et les élèves entre eux. Et ça c'est effectivement une vraie nouvelle voter dans la classe burundaise, et cette institutrice, à Thérèse, elle est extraordinaire, mais elle traduit bien l'extrême motivation que les enseignants ont eu à suivre ce programme, parce qu'il y a une part de revalorisation de l'image de soi qu'il y a à suivre un programme de formation continue. Et comme dans tous les métiers, les enseignants, ils ont besoin de temps en temps de se requalifier.
On est en ligne avec un auditeur qui nous appelle de Nouakchott, je crois que c'est Joe qui est en ligne et qui est enseignant. Bonjour Joe.
Bonjour.
Nous vous écoutons. Donc, vous êtes professeur de français?
Oui, je suis un instituteur. Ici, en Mauritanie, on dit un instituteur de français pour les écoles fondamentales.
Oui. On vous écoute.
Oui,
nous vous écoutons.
Oui, j'aimerais tout simplement participer à la formation des enseignants, vu mon expérience ici en Mauritanie. Comme tout métier, un enseignant veut une formation continue et une formation supplémentaire.
Parce que vous avez le sentiment que vous n'avez pas eu de formation suffisante pour enseigner?
Non, mais ce n'est pas moi. Je vis même la conjoncture actuelle où je suis. Je m'exerce avec les collègues qui sont recrutés à la hâte, qui n'ont pas suivi une formation. Et ça fait un défaut dans l'apprentissage du système mauritanien.
Ouais. Mais vous-même, vous êtes un enseignant fonctionnaire ou vous êtes un enseignant non fonctionnaire?
Je suis un enseignant fonctionnaire qui a bac plus 4.
Ah oui, vous êtes un enseignant privilégié alors.
Oui, je suis en fonction. Pourquoi je voulais tout simplement? Parce que vu comment dire, de l'expérience que j'ai vécue dans le système éducatif mauritanien, parfois le message ne passe pas très bien. Ça manque de la formation sur certains enseignants qu'on a recrutés, les brevetés, les enseignants qu'on a recrutés comme ça dans la rue. Et ça, ce n'est pas bon pour la formation.
Oui, et quand vous dites le message ne passe pas très bien, vous voulez dire auprès des élèves, c'est ça? Les salles de classe ne sont pas très vivantes, hein?
Oui, bon, c'est comme ça, parce qu'un enseignant qui n'est pas formé pédagogiquement, il ne peut pas faire passer le message aux élèves.
Merci pour votre témoignage, Joe, en Mauritanie. Vous êtes un instituteur de français en école fondamentale, comme vous le disiez. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 33 1 56 40 21 71, Pierre-Jean Loiret. Alors, le projet de formation continue des enseignants que vous avez initié, est-ce qu'il serait susceptible de s'étendre à d'autres pays? La demande serait sûrement importante.
Oui, il va d'abord s'étendre à l'intérieur des pays qui ont suivi la première expérimentation. Et à partir de 2011, il va concerner 4 à 6 nouveaux pays. En revanche, le choix sera fait en début d'année prochaine. Nous répondrons aux demandes de ces pays. Alors, on en a déjà reçu certaines, mais il s'agit bien de répondre à une demande et non pas, encore une fois, d'arriver avec une soi-disant solution miracle. Une demande qu'il faudra expérimenter. Là aussi, on va reproduire ce schéma.
Une demande des gouvernements.
Une demande des ministères de l'éducation.
Ça veut dire aussi pour ces ministères de reconnaître que la formation qui est dispensée auprès de leurs enseignants n'est pas du tout suffisante.
Ça veut dire qu'il y a un problème de formation continue. Ouais. Il y a très très peu, voire pas, de programmes de formation continue des enseignants. Et IFADEM intervient à deux niveaux, donc sur la formation des enseignants en poste et sans les retirer de leur classe, parce qu'il y a déjà suffisamment de problèmes de nombre. Donc il faut imaginer un dispositif de formation qui puisse les maintenir dans leur classe tout en augmentant la qualité de l'enseignement. Et puis le deuxième volet de l'intervention, c'est sur les institutions de formation des maîtres, où là on va travailler l'année prochaine.
Et puis alors, tout le problème, Joe le disait, lui c'est un enseignant fonctionnaire en Mauritanie. Pour le moment, votre projet IFADEM, par exemple au Burundi, s'adresse lui aussi aux enseignants fonctionnaires. C'est finalement les enseignants qui ont été les mieux formés. Et puis il y a tous les autres, qui sont d'ailleurs majoritaires dans tous ces pays-là, les enseignants non fonctionnaires, qui ont été un peu recrutés à la va-vite, comme le disait notre auditeur.
Oui, alors ça va clairement changer. On va au Burundi, donc les enseignants concernés sont ceux de cinquième année. À terme, c'est clair qu'en cinquième année, enseigne aussi des vacataires qui vont être concernés par le même programme.
Très bien, on se retrouve dans quelques minutes. Je vous rappelle notre numéro de téléphone si vous voulez participer. C'est le 33 1 56 40 21 71.
Ok, mon flow brille comme le bazar riche, c'est décise. J'ai un Dakar, je suis métisse, mais pas des bises. Plus boubou que bling bling, kiffe les bin bin. Loin de la famille, de mon bled, mon cœur déprime. Ici, c'est la mer, c'est Paris, c'est la grisaille. C'est pour ici que des millions de frères demandent un visa. Dans le RER, personne se parle, personne se calcule. Donc rien à voir avec l'ambiance d'un carabine.
Rallye Dakar, sous le soleil des plages et des espaces. Au pays des carabines, on côtoie la masse. Toutes les diasporas, Wolof Tukulo Rejola. Bienvenue chez moi, ambiance populaire autour du Barada. Polémique politique sur la vie sociale. Wahalek débrouillé, life pour banal. Sur les rythmes traditionnels, Dakar bouge.
On a les simples pour Dakar. Loin des soucis, loin des histoires. Appelle une compagnie et prends rencard.
Je prends mon billet direction Paris Dakar.
Destination Sénégal, embarquement immédiat, et y'a pas de lézard, on y va sans visa, prêt pour le départ.
Boulouac, ta gueule se bille Paris Dakar.
Bronzage et plage, la crème glacée a fondu. Dans la bouche belle et sage, de filles je nage et sans maquillage. Et toi confondu dans la béatitude de l'image. Tu fais qu'un homme de plus qui se cogne au fond du coquillage.
Malgré les fièvres, le sourire aux lèvres, comme le jour qui se lève, on se livre, on se love.
Bip bip,
le feu rouge débloque en jaune et black. Les taxis actionnent, Dakar en action.
Ici y'a plus de maintenant c'est Sering Bay, c'est le Sénégal, ça sent bon Tchoraï. Les femmes sont en pagne, tout le monde est en paix. Loin de la France, dans ma tête c'est l'île de Gorée. C'est taf taf, carapide, passe passe, Koroban. Loin des embrouilles, carabines, des tasses, ici l'islam. Daraji, Saman Bokdia, Jeff White. Au Sénégal j'ai des potes.
Je prends mon billet direct, direction Paris Dakar.
Destination Sénégal, embarquement immédiat. Et y'a pas de lézard, on va pas sans visa, prêt pour le départ.
Boulouac, ta gueule se bille Paris Dakar.
On a les simples pour Dakar. Loin des soucis, loin des histoires. Fais une compagnie et prends rencard.
Je prends mon billet direction Paris Dakar.
Destination Sénégal, embarquement immédiat. Et y'a pas de lézard, on va pas sans visa, prêt pour le départ.
Je prends mon billet direct sur Paris.
Nangen def Dakar jaay
Dakar. 7 milliards de voisins, Paris-Dakar, d'âge. Vous êtes bien sur RFI, on est en compagnie de Pierre-Jean Loiret de l'AUF et puis d'Amélie Niard qui est partie en reportage au Burundi pour comprendre ce fameux projet de formation continue des professeurs. Et puis on a un auditeur qui nous appelle à nouveau de Mauritanie. Nous sommes en ligne avec... qui êtes-vous ? Mohamed. Bonjour Mohamed.
Oui, Sophie Mohamed.
Oui. Bonjour, on vous écoute. J'étais Mohamed. Vous êtes bien en Mauritanie. Vous êtes à Kaïdi, d'accord.
En Mauritanie, à Kaïdi, oui.
On vous écoute.
Bon, moi, c'est le problème de la double langue se pose même dans mon pays.
C'est-à-dire français-arabe.
Français, oui, français-arabe. En effet, les élèves font en même temps le français et l'arabe. Et on remarque qu'ils sont aussi bien nuls en français qu'en arabe. Je voudrais savoir quelle est la meilleure méthode. Est-ce que c'est comme au Burundi, où les gens commencent d'abord la première langue nationale et ensuite ils passent au français? Quelle est la solution vraiment qu'il faut trouver pour nous?
On va poser la question alors à Pierre-Jean Loiret. Merci pour votre question. Elle a le mérite d'être claire, hein, puisque vous dites que vos élèves sont aussi nuls en français qu'en arabe en Mauritanie. C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai qu'il y a un problème de niveau des élèves en Mauritanie, Pierre-Jean Loiret.
Tous les linguistes sont d'accord, il y a une convergence de vues pour dire qu'on apprend mieux une langue étrangère, et le français est une langue étrangère en Afrique, quand on maîtrise d'abord sa langue maternelle. Donc effectivement, là, il y a une totale convergence de vues entre tous les spécialistes en éducation, les linguistes, pour dire qu'on apprend mieux quand on maîtrise d'abord sa propre langue.
Donc il faut commencer par sa propre langue, ou alors par les deux langues, mais en tout cas, il faut conserver sa propre langue dès le démarrage de l'école.
En tout cas, ce sont les recommandations, effectivement, des linguistes et des experts.
Alors, avec vous, Amélie, vous êtes partie dans une classe de Bujumbura, la capitale, on l'a entendu, mais vous êtes également rendue en zone rurale, hein, au Burundi, à Kayanza, dans le nord du pays, pour voir comment fonctionne la formation continue des enseignants.
Oui, j'ai eu cette chance. J'ai donc traversé le pays à travers les collines, les plantations de thé, vraiment de très beaux paysages. Et alors, moi, j'ai eu le sentiment qu'il y a une énorme différence de niveau entre les instituteurs de la capitale et ceux des zones rurales. Bon, j'ai seulement vu Kayanza, mais en tout cas, là-bas, j'ai eu l'impression qu'ils se sentent vraiment isolés, démunis face à leur classe. Naïma et Thierry, par exemple, sont tous les deux instituteurs dans la région de Kayanza et ils ne ressentent pas encore vraiment les bénéfices de la formation qu'ils ont suivie avec IFADEM.
Moi, je dirais que la vie d'un enseignant ici au Burundi n'est pas du tout facile. Nous vivons dans la misère, c'est pourquoi vous entendez quelquefois des moments de grève. Cela ne m'a pas permis de bien suivre l'IFADEM parce que quelquefois, on peut même arriver à ne pas avoir de quoi manger.
Vous avez été évalué pour la formation IFADEM, vous avez validé la formation ?
Oui, oui.
Et normalement, quand on réussit l'examen, on monte en grade, non ?
Je ne sais pas ce qu'on va nous faire, moi. Je ne sais pas ça.
Moi, je m'appelle Ndarengwa Thierry. Je suis enseignant à l'école primaire de Buhari. Avant que je fasse cette formation, par exemple, nous n'avions pas de dictionnaire, mais avec la formation IFADEM, on nous a donné des dictionnaires et des livres. Nous avons pu voir les mots difficiles avec le dictionnaire et aussi nous avons pu améliorer nos pratiques de classe. Nous avons 100 élèves.
100 élèves ?
Avec la scolarisation gratuite, les Burundais ont envoyé les enfants à l'école.
Et au niveau de votre salaire d'enseignant, ça a changé quelque chose ?
Au niveau des salaires, donc ici au Burundi, vraiment, nous touchons peu d'argent. Il nous est difficile même de joindre des bouts du mois.
Et là, maintenant que vous avez cette certification, vous n'avez pas eu d'augmentation de traitement ?
Dans la formation, on nous a dit qu'on va nous donner des certificats, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu nos certificats.
« Pierre-Jean Loiret de l'Agence universitaire de la francophonie. Les instituteurs au Burundi qui suivent votre formation continue IFADEM obtiennent donc un diplôme, une certification qui est censée leur apporter une augmentation de salaire en principe.
Oui, c'est ce qui a été signé avec le ministère de l'éducation et forcément ça prend un peu de temps, mais ça a été signé aussi avec l'accord des ministères des finances. Donc ça arrivera certainement. Maintenant c'est vrai qu'apparemment il y a du retard, mais c'est vrai que on disait tout à l'heure que le système scolaire pas très efficace parce que seuls 6 élèves sur 10 finissent le cycle primaire et en plus le système souvent il manque d'équité puisqu'il y a beaucoup plus de difficultés dans les zones rurales que dans les zones urbaines et c'est pour ça qu'on s'attache à IFADEM surtout et essentiellement sur ces zones urbaines. L'ONU dit qu'un très très pauvre gagne à $30 par mois de revenus, un pauvre à $60 de revenus par mois, un instituteur burundais qui commence à $80. Ouais. Donc on est quand même et c'est vrai, proche, à peine supérieur.
Et puis, dans ces zones rurales, les classes sont bondées, on l'a compris, hein, parfois une centaine d'élèves dans la salle de classe. Amélie Niard, comment des enseignants qui ont déjà des difficultés dans leur salle de classe, justement, peuvent-ils suivre une formation à distance qui est censée utiliser les nouvelles technologies, hein, les ordinateurs?
Bon, alors déjà, pour tout ce qui est partie formation à distance, on l'a dit, ils ne sont pas complètement livrés à eux-mêmes, ils sont accompagnés, ils ont des tuteurs. Mais bon, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Le Burundi n'est pas encore très équipé en ordinateur, encore moins dans les zones rurales. Alors, les nouvelles technologies au Burundi, c'est loin d'être ça.
Comme ils ne sont pas habitués à ce système, avant de leur donner les outils de formation et de leur dire « Allez étudier par vous-même », on les regroupe pendant 2 jours. Au cours de ces 2 journées de regroupement, on présente les modules de formation. On avait utilisé et des livres et des MP3 à pile parce que c'est en zone rurale et qu'ils n'ont pas accès à l'électricité. En plus, on a une demi-journée qui est consacrée à l'initiation, à l'informatique et à l'Internet. Parce que pour chaque module, il y a aussi des ressources qui ont été mises en ligne, des documents supplémentaires qui sont soit des exercices, soit des annales d'examen. Effectivement, beaucoup n'ont pas utilisé les ressources en ligne. Non seulement ils ont très peu accès, mais ils n'avaient pas acquis les compétences nécessaires pour pouvoir faire une recherche en ligne. Ils ont en grande partie utilisé le livre, il faut le dire. Là aussi pour le MP3, ça n'a pas été très performant parce que c'était un matériel qu'ils utilisaient pour la première fois. Je crois que c'est en grande partie une formation qui s'est révélée être basée sur le manuel qu'on leur avait fourni.
Voilà, on l'entend, hein, les profs sont hyper motivés par la formation continue, Pierre-Jean Loiret, mais est-ce que ce projet peut vraiment utiliser des nouvelles technologies comme c'était un peu le cas sur le papier au départ tout de même?
Il peut utiliser des technologies dans les institutions de formation des maîtres. Il est bien sûr pas question d'imaginer une formation continue reposant sur Internet dans les provinces rurales africaines. 80% des écoles ne sont pas électrifiées au Burundi. Donc effectivement, on s'est reposé sur du papier, des livrets spécialement conçus pour ça, et sur la dotation pédagogique à tous les enseignants.
Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Alors on a donné une grammaire et un dictionnaire à tous les enseignants qui suivaient la formation. Même on est allé plus loin grâce à un partenariat avec la fondation Hachette et l'Organisation Internationale de la Francophonie, a livré 33 000 dictionnaires aux 33 000 enseignants du Bénin. Et ça repose effectivement, la formation repose
ça,
essentiellement
concret, là-dessus.
C'est
lourd,
du très concret. Ouais. Un dictionnaire est un outil merveilleux pour progresser à l'école.
Et à Bujumbura, en revanche, là, vous avez pu installer des ordinateurs?
À Kayanza, dans le nord du pays, à la frontière du Rwanda aussi. Hein, et en plus, il a fallu sécuriser électriquement tout ça en installant des panneaux solaires, puisqu'il faut prévoir les délestages, les coupures, et que si on ne met pas ce genre de solution en place, les ordinateurs ils sont vite hors d'usage. Donc il y a des panneaux solaires qui permettent de tenir une journée pour suivre les formations. Les enseignants suivaient, comme le disait Concili, une initiation informatique et internet au moment de leur regroupement. Ils étaient regroupés 3 fois dans l'année.
Et là, c'est la grande découverte.
Et ça a été une grande découverte. 90% 100 n'avaient jamais touché un ordinateur avant. Ouais, ouais. Et avant de pouvoir dire on va introduire des technologies dans l'éducation, il faut d'abord
comprendre comment marche la machine. Voilà. Est-ce que ça peut à terme représenter une économie d'échelle pour vous, les nouvelles technologies, pour former davantage d'enseignants à un moindre coût?
La formation en distance, en général, plus il y a de monde à suivre une formation, moins ça coûte cher. C'est ça la donnée de base. Les investissements en matière de nouvelles technologies sont aussi tels que, dans l'immédiat, ça ne fait pas d'économie.
Oui. Oui, dans l'immédiat.
Dans l'immédiat.
Oui. Alors, le projet donc est financé par la francophonie, mais pas seulement. On le rappelle, il y a l'AFD, donc l'agence...
La francophonie finance les expérimentations et ensuite, pour les phases de déploiement, effectivement, il faut des partenariats avec ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers, dont, et essentiellement pour le Burundi, on peut vraiment les remercier, l'Agence française de développement. Et nous sommes aussi en discussion, ça va aboutir dès le début d'année prochaine pour le Bénin. Mais l'année prochaine, les 4 à 6 nouveaux pays, les expérimentations seront financées par
Et on ne sait pas encore quels seront
Très
les 4
bientôt.
À 6 nouveaux pays. Vous ne voulez pas nous le
pas
dévoiler. Je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs qui aimeraient savoir s'ils vont être concernés. Est-ce qu'il y aura la Mauritanie, par exemple, pourrait être éventuellement
Ce sera
dans la
en
bouche.
Afrique.
Ça sera sur le continent africain. Merci pour cette précision. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc responsable de l'innovation, directeur adjoint de l'innovation à l'Agence universitaire de la francophonie. Le reportage était signé Amélie Niard. À la réalisation, à la technique, Romain Dubrac et Didier Cherouz. Et je n'oublie pas non plus Sabine de Rosière, Léa Dispa. On se retrouve pour 7 milliards de voisins lundi maintenant avec l'histoire d'une femme immigrée polonaise qui a fait fortune en Australie au siècle dernier en vendant des crèmes de beauté. Et pas du tout des livres et des dictionnaires. Elena Rubinstein, sa vraie vie ressemble à un roman et son nom est devenu un empire de la beauté. Pour nous contacter sinon par mail pendant le week-end, pour nous suggérer les sujets qui vous touchent, 7milliards@rfi.fr, tout collé, 7milliards@rfi.fr. Je vous dis à lundi, très très bonne fin de semaine sur RFI et dans quelques instants, ça sera le journal.